Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous. Vous nous suivez à la radio et en images sur YouTube, RFI, en direct. Émission spéciale ce matin sur l'Ukraine, où la guerre est entrée dans sa quatrième année. L'occasion évidemment de prendre le temps de répondre à toutes vos questions pour vous permettre de mieux comprendre la situation sur le front, le quotidien des Ukrainiens et des Russes, les conséquences économiques et politiques, mais aussi le volet diplomatique, d'autant que ces 10 derniers jours, les États-Unis de Donald Trump ont opéré un spectaculaire revirement vis-à-vis de l'Ukraine et des Européens, en se rapprochant donc du président russe. Du coup, à quoi ressembleront les pourparlers entre Washington et Moscou? Quelle sera la marge de manœuvre du président Zelensky? Comment les Européens peuvent-ils reprendre la main? Autant de sujets que nous évoquerons durant près d'une heure. Et à mes côtés, pour dialoguer avec vous, Ulrich Bouna, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Vous êtes chercheur associé chez Eurocréative et vous avez publié aux éditions du Cygne « La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective ?» Ulrich Bouna, 3 ans de guerre et ce lundi, 2 résolutions qui seront soumises aux Nations Unies. La première déposée par les Américains et la seconde par les Européens. Que peut-on attendre de ces votes ?
Alors effectivement, donc, comme chaque année finalement, les Occidentaux présentent en général une résolution pour appeler à la fin du conflit, pour appeler au retrait des forces russes et pour appeler au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, finalement un petit peu les principes fondateurs de l'ONU. Ce qui change cette année, probablement du fait de l'administration Trump, c'est qu'effectivement, en parallèle de cette résolution un petit peu standard qui était présentée, les Américains présentent la leur, qui est beaucoup plus succincte, elle fait 68 mots et elle n'appelle absolument à rien d'autre que la fin de la guerre, sans parler de
l'intégrité territoriale de l'Ukraine
et du retrait des forces russes. Et donc effectivement, ça donne, enfin, c'est l'illustration parfaite du fait que les Russes semblent, que les Américains, pardon, semblent pressés d'avancer tout seuls sont tout à fait prêts à faire plaisir aux Russes, quitte à bafouer finalement, on va dire, un petit peu les fondements du droit international. Mais voilà, il est probable que cette résolution vise finalement à recueillir un maximum de suffrages pour appuyer finalement...
Mais elle sera approuvée, la résolution déposée par Donald Trump ?
Très probablement.
Parce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, aux Nations Unies, c'est quand même un test pour le président américain.
Oui, tout à fait. Mais je pense que justement, elle est suffisamment vague et suffisamment imprécise pour que finalement tout le monde soit prêt à voter pour et finalement qu'elle recueille plus de suffrages que celle présentée par les Ukrainiens et les Européens, ce qui serait une façon indirecte pour Donald Trump de dire « Regardez, ma méthode est la bonne ».
Allez, beaucoup d'auditeurs, beaucoup de questions au standard. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. On vous attend également sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, profitez-en. On est ensemble jusqu'à 9h, temps universel. Alpha, bonjour, soyez le bienvenu.
Alpha. Et l'ensemble de vos travailleurs, sans oublier notre éminent invité.
Merci à vous, vous êtes en Guinée. Quelles sont vos questions, Alpha?
Ok, 3 ans après le début de la guerre, où en est l'avancée russe en Ukraine? Ça, c'est la première question. La seconde, est-ce que les Ukrainiens ont pu récupérer des territoires?
Alors, quelle est la situation, Ulrich Bouna, sur le terrain?
Alors, donc, ça fait à peu près effectivement 1 an que les Russes ont repris l'offensive suite à l'offensive, à la contre-offensive, on va dire, qui n'avait pas donné grand-chose de la part des Ukrainiens. Donc, les Russes sont sur l'avancée, notamment dans l'est de l'Ukraine, donc ce qu'on appelle la région du Donbass, notamment dans le sud du Donbass. Cette progression, donc, les Russes mettent effectivement le paquet depuis aussi que Donald Trump est revenu au pouvoir, donc depuis le mois de novembre, puisqu'ils savent que les négociations vont s'ouvrir et qu'effectivement, il est probable que tous les territoires que les Russes occuperont, ils ne les rendront pas. Mais on sent malgré tout, que malgré cette avance, que cette avance ralentit de plus en plus. Ils ont pris 700 km² en décembre, ils en ont pris 500 en janvier, ils en ont pris 400 en février. Donc,
quel est le pourcentage du territoire ukrainien occupé par les Russes
Alors effectivement, globalement, donc voilà, en tous les cas, donc cette avance, elle se ralentit de plus en plus, mais grosso modo, on estime que les Russes occupent à peu près 19% du territoire ukrainien. C'est moins qu'en 2022, ils en occupaient un peu plus de 20%, mais c'est plus qu'effectivement avant 2022, où grosso modo, les territoires séparatistes et la Crimée, ça représentait 7 à 18%.
Ouais. Est-ce que les Ukrainiens ont pu récupérer des territoires, nous demandait Alpha?
Alors effectivement, ils en ont récupéré, mais quasiment au tout début de la guerre, en fait, lorsqu'il y a eu une contre-offensive en 2022, ils ont récupéré une bonne partie de leur territoire, notamment toute la frontière nord, qui est la frontière donc, avec la Russie. Tous ces territoires-là, ils l'ont récupéré, mais ils n'ont jamais pu récupérer, bon, bien évidemment, ni la Crimée, mais surtout le corridor territorial au sud de l'Ukraine, qui se trouve entre la Crimée et le territoire russe.
Ouais. Avez-vous des informations sur le quotidien des Ukrainiens qui vivent justement dans ces régions contrôlées par Moscou?
Alors, on en a indirectement, bien sûr, mais effectivement, ils sont dans une situation extrêmement compliquée. Hein. On est dans une situation vraiment de régime totalitaire où, grosso modo, pour toute opinion exprimée qui ne serait pas en faveur des autorités d'occupation, on peut être kidnappé, torturé, liquidé. Donc ça c'est documenté, hein, très précisément. Et par contre, effectivement, il n'y a pas du tout de reconstruction. L'économie est complètement au point mort. Et donc, finalement, la plupart des zones que récupèrent les Russes sont des zones qui sont complètement détruites et qui seront impossibles à réhabiliter.
Le président ukrainien écrit ce matin sur les réseaux sociaux 3 ans de résistance, 3 ans d'héroïsme absolu des Ukrainiens. La résistance ukrainienne dans ces territoires occupés, elle existe?
Alors, elle est beaucoup moins forte, hein. On ne va pas se mentir qu'au début, au tout début de la guerre, pour une raison très simple, c'est parce que la répression est ultra violente. Mais effectivement, il y a quand même encore des notables des autorités d'occupation qui sont éliminés de temps en temps via des attentats à la bombe. Il y a aussi des communications qui sont faites par la résistance auprès des autorités ukrainiennes pour signaler des regroupements de troupes, etc. Mais on va dire que ce mouvement est moins fort que ce qu'il était au début de la guerre.
On repasse au standard. Bonjour Adamou.
Bonjour, monsieur.
À Douala, au Cameroun, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, je suis avec vous.
Merci. Quelle est votre question?
Ma question, c'est-à-dire, en ce qui concerne l'avancée, l'incursion ukrainienne en territoire russe.
Oui.
Où en est cette opération?
Alors, vous faites référence évidemment à la région de Koursk, hein, qui est une région frontalière dans l'ouest de la Russie. L'armée ukrainienne est présente dans cette région depuis le mois d'août dernier, Ulrich Bouna, c'est bien ça. L'Ukraine avait réussi à avancer suffisamment dans cette région, où en est-elle aujourd'hui?
Alors effectivement, les Ukrainiens ont conservé à peu près 40% du territoire qu'ils avaient occupé au mois d'août, donc ils avaient occupé à peu près 1000 km², ils en ont à peu près 400 à 500.
Donc les Ukrainiens ont perdu des territoires dans cette région russe?
Tout à fait, mais ils s'y accrochent, et d'ailleurs c'est un objectif stratégique annoncé par le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, pour une raison très simple, c'est parce que dans la perspective d'une négociation avec Moscou, les Ukrainiens savent que c'est l'un des rares atouts qu'ils ont, et ils espèrent, ça d'ailleurs été dit par le président Zelensky, ils espèrent finalement récupérer une partie de leur propre territoire en échange de ce territoire qui est finalement vu un petit peu comme une monnaie d'échange.
Oui, Koursk va donc servir de monnaie d'échange. En quelques mots, Ulrich Bouna, les Ukrainiens, ils contrôlent quoi exactement dans Koursk? Des villages? Des villes?
Alors, ils contrôlent essentiellement, oui, des petits villages qui n'ont pas trop de valeur stratégique. La seule vraie ville qu'ils contrôlent, c'est la ville de Soudja, qui n'est pas une ville énorme, je crois qu'il y a quelques dizaines de milliers d'habitants, mais en revanche, c'était une ville assez importante, c'était un hub gazier, et donc ça représente une espèce de chef-lieu de canton, on va dire. Et donc, ça représente effectivement une valeur stratégique assez importante. Et c'est pour ça, finalement, que toute la défense ukrainienne dans la zone est articulée autour de cette ville de Soudja.
Ouais. Un mot, il y a des Nord-Coréens sur le terrain, oui, à Koursk. Il y a également des Tchétchènes qui appuient, hein, les soldats russes. Malgré tout ce déploiement, les troupes russes ne parviennent pas à reconquérir leur propre région. Qu'est-ce que ça dit, justement, du rapport de force sur le terrain dans cette région?
Alors, ça dit qu'effectivement, bon, déjà, les Ukrainiens mettent le paquet pour tenir la zone, et ça dit aussi, effectivement, les difficultés de l'armée russe, tout simplement. Hein. L'armée russe avait, dans un premier temps, décidé de faire front un petit peu partout, de continuer à grappiller dans le Donbass, et finalement, en espérant que les Nord-Coréens, les 10 000 Nord-Coréens, permettraient de faire la différence. Ça n'a pas suffi parce que les Nord-Coréens n'étaient pas du tout formés, et parce qu'ils n'avaient pas probablement anticipé cette résistance côté ukrainien. Mais ça dit effectivement des difficultés de l'armée russe aussi à recruter des hommes. On est sur une armée de volontaires en Russie, attirée par l'argent. Et effectivement, ça ne suffit plus en fait, pour compenser les pertes.
9h19 à Paris, vos questions. 3 ans de guerre en Ukraine, 33 9 693 693 70. Bonjour Pascal.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs du RFI.
Au Bénin, nous vous écoutons avec Ulrich Bouna.
J'ai 2 questions. La première, c'est de savoir, après 3 ans de guerre, est-ce que l'armée ukrainienne parvient toujours à recruter d'autres soldats, et quel est le bilan humain du côté ukrainien?
Ulrich Bouna.
Alors, je vais commencer par le bilan. Donc, il n'y a pas de bilan officiel, hein, comme vous imaginez. Volodymyr Zelensky, au mois de décembre, je crois, avait parlé de 43 000 morts et 370 000 blessés côté ukrainien. C'est probablement sous-estimé. On estime plutôt que les Ukrainiens ont perdu entre 80 et 100 000 hommes tués et à peu près 400 000 blessés. Côté russe, du coup, je vais peut-être répondre aussi. On est à plus, hein, on est à beaucoup plus. Côté russe, on estime entre 150 000 et 200 000 morts et à peu près 400 à 500 000 blessés. Cette différence de ratio entre les morts côté russe et ukrainien s'explique par le fait que les Russes déjà sont à l'offensive et ont surtout des tactiques en fait basées sur l'infanterie qui fait que leur infanterie se fait en général éliminer assez fortement par les Ukrainiens. Pour ce qui est de la partie recrutement,
Pour que les auditeurs comprennent bien, ni les Russes ni les Ukrainiens ne communiquent
tout à fait
sur les pertes militaires et les pertes civiles. Alors Pascal nous demandait si l'armée ukrainienne parvenait toujours à recruter. Et j'ai cru comprendre que ça devenait quand même de plus en plus compliqué.
Oui. Et peut-être juste, donc ça fait un chiffre d'environ plus d'un million de morts et de blessés, ce qui est colossal. En Europe, on n'a jamais vu ça depuis 45.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
L'armée ukrainienne a des difficultés à recruter pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'effectivement, le front s'enlise et que donc il y a de moins en moins de volontaires. Au début, en 2022, tout le monde était volontaire. Hein, maintenant, c'est moins le cas. Il y a aussi le fait qu'il y a quand même toujours des problèmes de corruption dans l'armée ukrainienne qui fait qu'effectivement, on n'est pas sûr quand on est recruté qu'on va être bien formé, etc. Donc il y a tout un ensemble de choses qui font que c'est plus compliqué pour l'armée ukrainienne de recruter des hommes. L'armée ukrainienne manque de bras, c'est une évidence. En revanche, ça ne veut pas dire que les Ukrainiens sont prêts à vraiment lâcher leur pays. Il y a encore une volonté de défendre son pays, d'être patriote. Mais c'est une démocratie. Les gens ne sont pas prêts à s'engager à n'importe quel prix dans l'armée ukrainienne. Ils veulent un certain nombre de conditions qui leur permettraient de s'engager véritablement.
L'armée manque de bras, disiez-vous à l'instant, Ulrich Bouna. On a vu des scènes sur les réseaux sociaux d'enrôlement forcé.
Tout à fait, effectivement, c'est-à-dire que pour compenser l'absence, enfin le manque de volontaires, effectivement, il y a désormais des gens qui se font arrêter dans la rue. Alors c'est pas la majorité, mais il y a dans certaines villes, notamment à Odessa, c'est assez connu pour ça, il y a des troupes en fait de l'armée ukrainienne, des recruteurs qui tournent et effectivement demandent leurs papiers aux gens dans la rue. Et s'ils ne sont pas en règle, ils sont embarqués, emmenés en caserne pour au moins mettre à jour leurs documents, voire être enrôlés.
Jean-Martin nous rejoint. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Soyez le bienvenu.
Je vous en prie, Juan.
Nous vous écoutons.
Alors, ma question, elle est toute simple. 3 ans de guerre et puis Zelensky présenté comme le messie avec une popularité au paroxysme en Ukraine, avec tout ce que la guerre a connu comme affre, où en est la cote de popularité de Zelensky? Qu'est-ce que les Ukrainiens pensent de leur dirigeant aujourd'hui?
Ouais, bonne question, d'autant que Donald Trump affirme que Zelensky ne bénéficie plus que de 4% d'opinion favorable auprès de ses concitoyens. D'ailleurs, d'où sort-il ce chiffre de 4%?
Alors, ça vient de la propagande russe.
Voilà, donc il reprend le verbatim et le narratif du Kremlin. Quid de sa popularité aujourd'hui?
Alors, donc il y a eu pour le coup des sondages d'opinion qui ont été faits un petit peu avant et un petit peu après les déclarations de Donald Trump. Il est aux alentours entre 50 et 60%, 57% d'après le dernier sondage que j'ai vu. Il est moins effectivement un peu populaire. Hein. Au début de la guerre, il était à plus de 80%. Il reste quand même l'homme politique le plus populaire d'Ukraine. Hein. L'ancien président Poroshenko, par exemple, est à 16% d'opinion positive. Donc ça reste l'homme politique le plus populaire parce qu'il représente la résistance. S'il y avait des élections demain, il est probable, je ne sais pas s'il se représenterait, mais s'il se représentait, il serait probablement parmi les finalistes.
Il est le plus populaire.
Alors,
il a de fortes chances.
Des hommes politiques, bien sûr.
Il a de fortes chances d'être élu s'il y avait des élections demain.
C'est possible.
Mais il a perdu en popularité.
Oui, il a perdu.
Comment peut-on expliquer justement cet effritement de la popularité de Zelensky?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a effectivement la fatigue de la guerre. Il y a le premier point. Il y a le fait aussi que il y a eu quand même plusieurs scandales en fait au niveau de la gestion de la guerre, au niveau de la gestion de l'armée.
Scandale de corruption.
Scandale de corruption et aussi un manque de volonté politique en fait sur certains sujets, notamment cette mobilisation. Il a repoussé pendant des mois et des mois la décision de mobiliser plus d'hommes et donc ça a forcément impacté un petit peu sa popularité. Et il faut savoir aussi qu'avant la guerre, en fait, sa popularité commençait à descendre. Il n'avait pas délivré les résultats en termes de lutte contre la corruption, en termes de croissance qu'il avait promis. Donc effectivement, il reste le symbole de la résistance, mais si par exemple demain l'ancien chef d'état-major, le général Zaloujny, se présentait, il est très probable que ce soit Zaloujny qui soit élu, car c'est l'homme le plus populaire d'Ukraine actuellement.
D'accord. On continue à parler de la popularité du président Zelensky en Ukraine. Bonjour Blaise.
Allô, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs RFI.
Merci de nous écouter à Abidjan. Allez-y.
Je voudrais poser une question toute simple.
Oui.
Pourquoi le président américain Donald Trump accuse Zelensky d'être un dictateur ?
Ulrich Bouna.
Alors, pareil, il reprend le narratif russe. En fait, juste qu'il faut comprendre. Et alors, effectivement, normalement, il y aurait dû y avoir une élection présidentielle en Ukraine l'an dernier.
Il y a un an, quasiment jour pour jour.
Exactement. Il n'y en a pas eu parce que c'est la loi martiale en Ukraine et que, donc, constitutionnellement, il n'y a pas d'élection pendant la loi martiale. Ça peut se comprendre. Mmh. Il y a des millions de déplacés. Il y a, je crois, 7 millions d'Ukrainiens qui sont à l'étranger en Europe actuellement. Il y a des centaines de milliers d'hommes sous les drapeaux. On ne peut pas organiser une élection comme ça. Il y a des territoires occupés. Donc, ça nécessiterait probablement un recensement, etc. Donc, mais en fait, si vous voulez, donc oui, effectivement, on va dire son mandat est prolongé, mais il n'y a pas de faille constitutionnelle, c'est prévu par la Constitution, et il a déjà annoncé que dès que les conditions seraient réunies, il y aurait des élections.
Ouais. Cet argument avancé par Trump, c'est l'argument du Kremlin. Oui. Quel est le but de Donald Trump ? C'est d'affaiblir le président Zelensky, de nuire à sa notoriété internationale ?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que Donald Trump est déjà quand même dans une bulle cognitive qui probablement est influencée par la Russie. Et deuxième point, effectivement, dans sa perspective d'obtenir un accord de paix le plus rapidement possible, il cherche à tordre le bras aux deux. Et c'est plus simple de tordre le bras à l'Ukraine, qui est quand même dépendante des États-Unis pour une partie de son armement et de son soutien financier. Donc c'est plus simple de tordre le bras à Zelensky.
La présidentielle aurait dû se tenir en mars dernier, il y a un an. Est-ce qu'en Ukraine, des voix s'élèvent justement pour dénoncer la légitimité de Zelensky ?
Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, je pense que les Ukrainiens ont parfaitement, enfin je pense, c'est documenté par des sondages, que les Ukrainiens ont parfaitement conscience qu'organiser des élections actuellement, c'est pas possible.
Donc il ne réclame pas d'élection en ce moment.
Non, effectivement. Il y a la politique n'a jamais vraiment disparu, ça reste une démocratie, mais on va dire que les opposants politiques de Volodymyr Zelensky sont de plus en plus vocaux, effectivement, depuis notamment les critiques de Donald Trump. Mais en revanche, la population elle-même ne réclame pas des élections parce qu'elle a conscience que c'est pas possible actuellement.
Et l'opposition politique,
oui,
elle réclame des élections ?
Alors, ils marchent un peu sur des œufs, c'est-à-dire qu'ils n'en réclament pas, mais ils font bien comprendre qu'ils aimeraient bien qu'il y en ait assez rapidement parce qu'ils estiment que Volodymyr Zelensky, finalement, a besoin de passer la main.
On repasse au standard. Oui. Il nous reste trois petites minutes avant la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Adam.
Bonjour M. Juan Gomez, bonjour la radio de l'Europe et du monde.
Merci. On vous écoute avec Ulrich Bouna, notre invité.
Au sein de la population russe, est-ce que des voix contestent la guerre en Ukraine ?
Ulrich Bouna.
Alors c'est très très compliqué, hein, faut bien comprendre. Moi-même je connais des Russes qui habitent en Russie, qui sont contre la guerre et qui ne peuvent pas en parler. Il y a une espèce de dissonance cognitive. Faut comprendre qu'en Russie, si vous likez un commentaire sur Facebook par exemple qui est contre la guerre, ou si vous donnez 5 euros à une association qui va aider des gens en Ukraine, vous pouvez aller en prison. Donc on en est là. Hein,
donc critiquer la guerre, c'est considéré comme un acte finalement criminel.
Criminel, exactement, c'est considéré comme de la trahison. Hein. En Russie, on peut prendre plusieurs années de prison pour ça. Donc les gens ne s'expriment pas par rapport à la guerre. En revanche, il y a une vraie lassitude de la guerre. Les Russes n'ont jamais véritablement compris l'intérêt de cette guerre. Et donc, il y a une volonté que ça s'arrête, mais elle ne s'exprime pas. Et surtout, il n'y a pas du tout d'opposition. Vladimir Poutine qui s'exprime. Le régime est devenu de plus en plus coercitif depuis 2022. Il était déjà avant, mais il est devenu encore plus maintenant. Et donc, l'opposition n'existe plus. Et ceux qui étaient le plus vocaux sont soit morts, comme Alexei Navalny, soit sont partis parce qu'il n'était plus possible de rester en Russie.
Il y avait eu des manifestations sur le territoire russe pour dénoncer cette guerre, il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. Alors, je connais par exemple quelqu'un qui avait manifesté. On est venu voir ses parents, etc., pour lui mettre la pression. Donc, du coup, il n'y a plus de manifestations. Et les rares personnes qui auraient pu éventuellement manifester, notamment les maires de soldats, etc., ceux qui ont fait partie de la mobilisation partielle, tous ces comités de maires ont été interdits par l'État russe. Donc, effectivement, une volonté de museler toute possibilité de contestation. Ouais.
Vous parliez du patriotisme côté ukrainien. Il existe évidemment ce patriotisme côté russe. Il s'exprime, lui ?
Alors, bien sûr, hein, y a effectivement des gens extrêmement patriotes qui s'expriment, qui sont extrêmement vocaux. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ça ne représente pas la majorité. Si, encore une fois, les Russes ne sont pas prêts à se battre pour une guerre qu'ils ne comprennent pas véritablement, ce qui n'est pas sur leur territoire. Les Ukrainiens
ne comprennent pas. Et pourtant, il y a 3 ans, quand on les interrogeait, ils soutenaient, ils approuvaient cette guerre. Alors, ils disaient même qu'elle était nécessaire.
Oui, enfin, une partie d'entre eux. Après, effectivement, il y a une partie de la population qui reste abreuvée de propagande et qui y croit. Mais n'empêche que, toujours est-il qu'au bout de 3 ans de guerre, les objectifs n'ont jamais vraiment été clairement énoncés par Vladimir Poutine. L'économie russe, quand même, subit beaucoup d'inflation. Donc, il y a une lassitude de la guerre côté russe.
Ouais, vous avez des questions? Vous souhaitez mieux comprendre la guerre en Ukraine, ses conséquences, ses répercussions à l'échelle internationale? Vous nous appelez, on vous répond en direct ce matin sur RFI 33 9 693 693 70. On marque une petite pause 10 minutes et on revient tout de suite après pour la suite d'appels sur l'actualité.